Bonjour chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour cette édition du journal. Au micro, Nanit Talani. Ce matin, l'actualité est marquée par la Namibie qui réécrit son histoire avec Netumbo Nandi-Ndaitwah, élue première femme présidente. Joe Biden en Angola qualifie la traite des esclaves de péché originel et annonce une aide humanitaire pour l'Afrique. Invoquant la grâce du fils Biden, Trump réclame l'annulation du procès Stormy Daniels. L'ONU alerte sur l'aggravation des déplacements forcés. Dans les magazines, nous vous proposerons une analyse du changement de génération politique avec l'ascension de jeunes dirigeants au pouvoir au Sénégal.
Se voir propulser président de l'Assemblée nationale, c'est une lourde charge, c'est une lourde responsabilité. À eux de faire preuve de beaucoup d'humilité, de savoir que ce sont de lourdes responsabilités.
La Côte d'Ivoire obtient l'approbation de crédits budgétaires pour 2025. Ce sera dans la Minute Éco, juste avant le sport. Retrouvons ces sujets et bien plus dans ce journal. En visite officielle en Angola, le président américain Joe Biden a qualifié la traite des esclaves de péché originel qui a hanté les États-Unis. Lors d'un discours prononcé hier, il a aussi annoncé $1 milliard d'aide humanitaire à l'Afrique. Jacques Aristide.
S'exprimant au Musée national de l'esclavage de Luanda, le président Joe Biden a fait part de cette nouvelle aide de plus $1 milliard répartie sur 31 pays pour les Africains déplacés par des sécheresses historiques. Pour lui, l'histoire de l'Angola et des États-Unis est une leçon pour le monde. Deux nations avec une histoire commune dans le mal de l'esclavage humain, deux nations dans des camps opposés de la guerre froide à la fin du XXe siècle. Et maintenant, deux nations se serrant les coudes, travaillant ensemble chaque jour pour le bien mutuel de nos peuples, a-t-il ajouté. Washington compte verser $229 000 pour soutenir la restauration et la conservation de ce musée angolais de l'esclavage. Le président Biden, qui passe le relais à son successeur Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier, a longuement évoqué hier avec son homologue angolais João Lourenço le couloir de l'Obito, gigantesque projet de voie ferrée qui est décrit comme l'investissement massif et très ambitieux, emblématique de la présidence Biden en Afrique. Selon la Maison-Blanche, Joe Biden doit justement se rendre à l'Obito aujourd'hui pour y rencontrer les dirigeants des pays concernés par ce couloir, à savoir, outre l'Angola, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie.
La Namibie a élu sa première femme présidente, Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 ans, l'actuelle vice-présidente issue du parti au pouvoir dès le premier tour, avec 57,31% des suffrages, a annoncé hier soir la commission électorale. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le parti de celle que les Namibiens surnomment NNN, la SWAPO, dirige le pays, qui compte 3 millions d'habitants depuis son indépendance en 1990. Le taux de participation s'élève à plus de 76% des inscrits, selon la commission électorale. Le premier opposant, Panduleni Itula, arrive loin derrière avec seulement 25,50% des voix dans cette élection qui a connu une forte participation, mais aussi de nombreux cafouillages obligeant à prolonger le scrutin de plusieurs jours. Les élections présidentielles et législatives du 27 novembre ont dû être prolongées à deux reprises en raison de problèmes logistiques et techniques, avec notamment une pénurie de bulletins de vote. Le leader du principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement, avait annoncé dès le week-end dernier qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats.
Différentes organisations guinéennes indiquent que le nombre de supporters de foot tués dimanche dans une embuscade ou une bousculade plutôt dans le sud-est du pays était probablement très supérieur aux 56 morts annoncés par le gouvernement. On estime aujourd'hui à 135 personnes, dont majoritairement des enfants de moins de 18 ans, le nombre de ceux qui ont trouvé la mort au stade du 3 avril de Nzérékouré, a dit un collectif d'organisations de défense des droits humains dans une déclaration lue publiquement à Nzérékouré. Le collectif dit se fonder sur des informations recueillies à l'hôpital auprès de témoins de parents de victimes dans les mosquées et les églises auprès des chefs de quartier où ont lieu des inhumations et dans la presse. Le ministre algérien des affaires religieuses, Youssef Belmehdi, assure que la liberté de culte est garantie en Algérie, bien que l'islam soit la religion d'État. Il a souligné que cette liberté est encadrée par la loi et protégée par la Constitution, qui garantit également la sécurité des lieux de culte et protège contre les agressions. Cependant, les États-Unis ont placé l'Algérie sur une liste de pays surveillés en raison de violations de la liberté religieuse, citant la criminalisation du blasphème et la fermeture d'églises évangéliques. Malgré ces accusations, Alger affirme respecter la liberté religieuse dans le cadre de la loi et des pratiques interreligieuses.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Nations Unies avertissent que les niveaux déjà sans précédent de déplacements forcés risquent de s'aggraver en 2025, alors que les conflits et les catastrophes poussent toujours plus de personnes à fuir leur foyer. Les précisions avec Dili Diko.
Nous vivons dans un monde ravagé par des conflits violents dont on ne voit pas le bout, qui brisent des vies et poussent les gens à fuir en quête de sécurité, a déploré le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Le HCR cherche à obtenir 10,25 milliards de dollars l'année prochaine pour faire face aux crises qui s'intensifient. Une conférence des donateurs à Genève a permis de récolter mardi 1,14 milliard de dollars de promesses gouvernementales, les engagements du secteur privé portant le total des promesses à 1,5 milliard de dollars. Selon le HCR, les déplacements forcés atteignent des niveaux sans précédent, avec environ 123 millions de personnes déplacées dans le monde. L'agence estime que plus de 139 millions de personnes déplacées de force pourraient avoir besoin de la protection et de l'assistance du HCR l'année prochaine en raison de l'aggravation des conflits, l'intensification des catastrophes naturelles et des crises en cours. Les États-Unis sont en tête des contributeurs avec un engagement à 200 millions de dollars, suivi du Danemark et de la Suède. Le premier bénéficiaire de l'aide du HCR en 2025 sera l'Ukraine avec 550 millions de dollars, suivi du Liban, de l'Éthiopie, du Soudan, du Tchad, de la Syrie, de la Jordanie, l'Ouganda, le Yémen et le Soudan du Sud.
Hier, en Corée du Sud, le président Yoon Suk Yeol a créé la surprise en proclamant la loi martiale, ce qui a suscité manifestations et inquiétudes de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et la Russie. Tard dans la nuit, le président a finalement annoncé que la loi martiale allait être levée davantage avec Claire Morin-Gibourg.
C'est lors d'une nouvelle adresse à la télévision que le président coréen a annoncé la levée de la loi martiale. Il y a eu une demande de l'Assemblée nationale pour lever l'état d'urgence et nous avons procédé au retrait des militaires qui avaient été déployés, a-t-il déclaré. Instaurée pour la première fois dans le pays en plus de 40 ans, la loi martiale a suscité la stupeur. Un décret en 6 points avait rapidement suivi, interdisant les activités et les partis politiques, les grèves et les rassemblements, et plaçant tous les médias sous la surveillance du gouvernement. Bien qu'inattendue, cette annonce s'inscrit dans le contexte d'une bataille avec le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, sur le projet de budget de l'année prochaine. Les députés de l'opposition ont approuvé la semaine dernière un programme budgétaire considérablement réduit. Le président sud-coréen a accusé les élus de l'opposition de couper tous les budgets essentiels aux fonctions premières de la nation.
Le principal parti d'opposition en Corée du Sud dit ce mercredi qu'il engagera une procédure en destitution contre le président Yoon Suk Yeol s'il ne démissionne pas immédiatement après donc son éphémère loi martiale proclamée puis levée dans la nuit. Invoquant la grâce présidentielle qu'a accordée Joe Biden à son fils Hunter, Donald Trump a réclamé officiellement à la justice new-yorkaise, via ses avocats, l'annulation de sa condamnation pénale historique dans l'affaire Stormy Daniels, selon un document judiciaire mardi. Le 45e et bientôt le 47e président des États-Unis a été jugé en mai pénalement coupable de paiements dissimulés avant la présidentielle de 2016 à une actrice de film X pour qu'elle taise un rapport sexuel 10 ans plus tôt. C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, voici la Minute Éco présentée par Firmin Max Kouyaweda.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement obtient l'approbation des députés pour des crédits budgétaires de 527,648 milliards de francs CFA. Il a précisé que les principaux chantiers pour l'exercice 2025 s'inscrivent dans la logique du plan national de développement, notamment en matière de modernisation des outils de gestion du trésor, de sécurisation du système d'information comptable et de renforcement de la mobilisation de l'épargne privée. L'ONU alerte sur l'aggravation des déplacements forcés en 2025, alors que les conflits et les catastrophes poussent toujours plus de personnes à fuir leur foyer. Selon le HCR, les déplacements forcés atteignent des niveaux sans précédent, avec environ 123 millions de personnes déplacées dans le monde. En Afrique, l'Éthiopie, le Soudan, le Tchad, l'Ouganda et le Soudan du Sud sont bénéficiaires de l'aide réclamée par le HCR pour 2025. Pour finir, les pays en développement ont payé un montant record de 1400 milliards de dollars pour le service de leur dette extérieure en 2023 en raison des taux d'intérêt très élevés, selon un rapport de la Banque mondiale publié mardi. Parmi ces pays, les plus pauvres et vulnérables ont déboursé un montant record de 96,2 milliards de dollars pour le service de leur dette, dont près de 35 milliards pour les seuls coûts d'intérêt, un record également.
Restez avec nous pour un tour d'horizon sportif avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba. Bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
On connaît tous les qualifiés pour les quarts de finale de la CAN féminine de handball qui se déroule à Kinshasa en RDC.
Oui, dans la poule A, le Congo, l'Égypte, le Sénégal et l'Algérie poursuivent leur aventure à Kinshasa dans cette CAN féminine de handball. Le Cap-Vert et le Kenya sont éliminés car seuls les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. Dans la poule B, c'est l'Angola, le Cameroun, la RDC et la Tunisie qui ont arraché leur ticket pour le tour suivant. Ça ne passe pas pour la Guinée et l'Ouganda qui était aux prises hier dans cette poule B pour le compte des matchs de la dernière journée de la phase de poule. Malgré la victoire des Guinéennes face aux Ougandaises 48 à 22, la Guinée finit 5e et l'Ouganda 6e du groupe B.
C'est la semaine prochaine, Yakuba, que la FIFA va officiellement confirmer l'accueil du Mondial 2030 par le Maroc, le Portugal et l'Espagne.
Les notes d'évaluation des infrastructures de ces trois pays sont bonnes, selon notre correspondant à Casablanca, Amin Birouk.
Le 11 décembre, nous aurons la confirmation définitive que le Maroc, le Portugal, l'Espagne organiseront la Coupe du Monde 2030, que l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay organiseront les festivités du centenaire de la Coupe du Monde. C'est un formalisme auquel s'est attachée la FIFA avec des process, et parmi les process, la visite des fameux inspecteurs pour découvrir et faire découvrir les infrastructures et pas seulement les stades des trois pays. Les trois pays ont, je dirais, mis en lice 17 stades, des installations, des terrains d'entraînement, des fan zones, sans oublier, bien évidemment, les infrastructures aéroportuaires, hôtelières, les transports publics. Tout cela a été scruté de manière minutieuse et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un satisfecit général puisque la note d'ensemble est de 4,2 sur 5. C'est la note la plus élevée des visites d'inspection, ex aequo avec le dossier de candidature de l'Afrique de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2034. Mieux encore, les stades marocains ont reçu une note assez satisfaisante. Le grand stade Hassan II qui est en chantier et l'égal du Santiago Bernabéu du Nou Camp, ils sont tous trois désignés pour abriter ou le match d'ouverture ou la finale. Et les cinq autres stades reçoivent une note entre 4,1 et 4. Devançons des stades aussi prestigieux que le José Alvalade de l'Espagne, la Rosaleda de Malaga, le stade de San Sébastien, de la Corogne ou de Saragosse, ce qui en dit long sur le travail, le sérieux, je dirais, des autorités marocaines qui ont également offert toutes les garanties nécessaires sur le plan juridique pour que cette Coupe du Monde soit une réussite. Petite zone d'ombre peut-être, les transports en commun qu'il faudrait améliorer, l'hôtellerie grand public et non pas l'hôtellerie de luxe, mais nous avons 5 années pour pouvoir réussir cette prouesse. Le verdict, c'est le 11 décembre et ce sera l'occasion de célébrer en Afrique la deuxième Coupe du Monde en terre africaine après celle qu'avait obtenue l'Afrique du Sud en 2010.
Merci Amine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Voici notre section magazine. Au Sénégal, Eladj Malik Ndiaye, 42 ans, a récemment été élu président de l'Assemblée nationale à la suite des élections législatives du 17 novembre. Cet événement marque un tournant dans la politique sénégalaise, caractérisé par l'arrivée de jeunes dirigeants à la tête de l'État. Aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, et du premier ministre Ousmane Sonko, 50 ans, Eladj Malik Ndiaye incarne une nouvelle génération de responsables politiques. Pour analyser cette évolution, Yacouba Ouédraogo a joint à Dakar au Sénégal le professeur Jean-Louis Correa, analyste politique. Il partage ses réflexions sur ce renouveau politique et les défis auxquels ces jeunes dirigeants devront faire face dans la gestion du pays.
Eladj Malik Ndiaye est un cadre de PASTEF. Il n'est pas membre fondateur de PASTEF, mais il fait partie des personnes les plus en vue de ce parti qui a eu à participer aux luttes de ces dernières années de 2022, 2023, etc. Ce qui lui a donné une certaine légitimité et qui est également, d'après ce qu'on dit, à l'origine du slogan Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye, ça veut dire que Sonko et Diomaye et Diomaye et Sonko, c'est la même personne.
Désormais, on a un président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, le premier ministre Ousmane Sonko, 50 ans, et maintenant Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, 42 ans. Est-ce qu'on peut parler du renouvellement de la classe politique à la tête de l'État sénégalais?
Oui, effectivement, sans se tromper, on peut analyser ce qui se passe comme étant un renouvellement, un changement de génération, et j'irai même un peu plus loin, comme un changement de système. Toute la génération post-indépendance qui avait commencé à tirer un peu sa révérence à partir de l'élection du président Macky Sall, cette génération-là, vraiment, elle va un peu, et même beaucoup à la retraite. Le président Macky Sall, certes, n'est pas encore très très vieux. Il peut, selon la constitution du Sénégal, redevenir candidat. Mais en tout cas, une grande génération qui avait fait la politique sénégalaise après les indépendances, cette génération-là a été mise à la retraite. Et donc là, on est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle génération qui s'accompagne également d'un nouveau système politique, d'une nouvelle conception de la politique au Sénégal, effectivement.
Depuis l'arrivée au pouvoir, justement, du PASTEF, on a entendu des opposants parler d'amateurisme. Est-ce que cette jeunesse des dirigeants sénégalais ne va pas manquer d'expérience dans la gestion, justement, de l'État?
Oui, effectivement, ils peuvent manquer d'expérience à ce niveau-là. Il n'y a pas d'école qui forme un président de la République, qui forme un premier ministre, évidemment. Ils vont manquer d'expérience. Eladj Malik Ndiaye n'a jamais été député, donc se voir propulsé président de l'Assemblée nationale, c'est une lourde charge, c'est une lourde responsabilité. À eux de faire preuve de beaucoup d'humilité, de savoir que ce sont de lourdes responsabilités, de mesurer l'importance de la charge et de ne pas être toujours sur un mode guerrier, un mode va-t-en-guerre. Il va falloir prendre le temps d'apprendre certaines choses, d'assimiler d'autres choses, et le tout dans un espace-temps assez réduit, c'est-à-dire, je dirais même plus 5 ans, je dirais 4 ans, parce qu'il y a déjà un an qui est parti. Donc ça va pas être facile. Mais je pense qu'avec la confiance renouvelée par les Sénégalais lors de ces élections législatives, il y aura une certaine accalmie ces derniers temps. On pourra pendant quelques temps encore parler d'état de grâce et leur passer quelques petites erreurs.
C'était le professeur Jean-Louis Correa, analyste politique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Ce mardi 3 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la troupe Fiontan, un groupe de gymnastes et de danseurs composé uniquement de personnes sourdes et muettes, a captivé son public à Abidjan en Côte d'Ivoire. À travers leurs performances, ces artistes ont mis en lumière la lutte pour l'inclusion et l'égalité des personnes handicapées. Notre correspondant Ange Nemegno est allé à la rencontre de la compagnie Fiontan, qui a aussi récemment fait parler d'elle au MASA, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Suivons son reportage.
Devant une salle bondée de monde, les artistes de la troupe Fiontan exécutent des danses pour conter une histoire. Leur rythme cadencé et bien millimétré donne l'impression d'assister à un spectacle comme les autres. Pourtant, il s'agit bel et bien de personnes sourdes et muettes qui communiquent avec le public par le biais de danse et de mouvements de gymnastique. Sanou Yaya, fondateur de la compagnie Siantan.
La compagnie fait venir sans handicap. Parce que nous avons décidé à travers ce projet de mettre le barrière qui se trouve entre les personnes invalides et les personnes en situation de handicap pour dire que nous aussi nous avons le droit comme tous les hommes. À travers ce spectacle, il répare la place qui les a été ôtée dans la société pour avoir aussi une place.
Les danseurs de la compagnie Siantan produisent des spectacles de renommée internationale. Ils ont tout récemment remporté la médaille d'or au 9e jeu olympique dans la catégorie danse et création. Le thème de leur spectacle « Adepte de mon être » explore les maux de la société contemporaine à travers des scènes de manifestations et de luttes pacifiques, avec un accent particulier sur la revendication des personnes handicapées. Adama Tungara, membre de la compagnie Siantan.
Avant, les sourds ne pouvaient pas se présenter devant les autorités dans sa communauté, mais vu qu'à travers la danse, ils peuvent aller au-delà de ça, présenter ses spectacles à n'importe qui.
Lydie Traoré, membre de la compagnie Siantan.
Elle demande plus d'égalité pour les sourds dans ce spectacle.
Le spectacle a été bien accueilli par une centaine de personnes qui ont fait le déplacement. Parmi eux, des élèves de l'école ivoirienne des sourds muets. Ils ont apprécié à sa juste valeur la prestation qui leur a été donnée. Ibrahima Ouattara, enseignant à l'école ivoirienne des sourds.
Aujourd'hui, nous avons vu un public épanoui. Juste une manière de dire que nous sommes tous pareils dans la société. Avant, ces enfants étaient marginalisés. Mais aujourd'hui, assister à un spectacle de sourds qui fait plaisir à toute une salle, vraiment, ça fait vraiment honneur.
Ce mardi 3 décembre 2024, Le Monde célèbre la Journée internationale des personnes handicapées, un événement célébré chaque année depuis 1992, conformément à la résolution 47.3 de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée vise à sensibiliser le public à l'inclusion des personnes handicapées et à promouvoir l'égalité des chances. Ange Noméon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Lors d'une rencontre avec son homologue angolais João Lourenço ce mardi, dans le cadre de sa seule visite en Afrique subsaharienne en tant que président des États-Unis, Joe Biden a promis un engagement durable de Washington avec l'Afrique. Selon la Maison-Blanche, M. Biden va aussi y rencontrer les dirigeants de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joué à Johannesburg. Joanne William Schmonzi, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Le président s'est rendu en Angola, premièrement pour souligner la solidité durable des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Angola et en plus l'engagement des États-Unis envers tous nos partenaires africains, la manière pour travailler ensemble pour résoudre les défis communs. Le site est important parce que les États-Unis ont annoncé l'année dernière leur soutien au corridor de Lobito, un projet d'infrastructure qui promet de lier l'économie de l'Angola, de la RDC, de la Zambie et plusieurs autres pays africains, en particulier de l'Afrique australe. Et c'est pour ça que la Maison-Blanche a décidé a choisi l'Angola pour la visite du président.
Qu'est-ce que les États-Unis espèrent tirer de ce partenariat?
Cette visite a lieu dans l'esprit qu'a annoncé l'administration sous l'expression « ce qui compte ». Ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, c'est ce que nous pouvons faire avec l'Afrique. Les États-Unis entreprennent ce projet pour augmenter le commerce bilatéral entre les États-Unis et l'Afrique pour le bénéfice des deux côtés.
Et pourquoi le président Biden a choisi de se rendre au Musée national de l'esclavage que symbolise sa présence?
L'héritage de l'esclavage et toute cette histoire épouvantable nous est très important. On est conscient du fait que pour la diaspora africaine en Amérique et aussi pour les peuples africains. C'est une mémoire qui fait mal et il faut s'adresser à ce qui s'est passé dans le passé faire face à l'histoire. Et c'est un genre de transparence. C'est une question, c'est un héritage, une question qui nous sont importants. Et voilà, c'est un élément de l'histoire qui ne peut pas être effacé.
Joanne William Schmossis, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Los Angeles a approuvé une ordonnance qui la qualifie de ville sanctuaire. Il s'agit d'une réponse à la promesse du président élu Donald Trump de procéder à des déportations massives lorsqu'il prendra ses fonctions en janvier. L'ordonnance n'empêchera pas les fonctionnaires fédéraux d'expulser les immigrés sans papier, mais elle renforce le vœu de la ville de protéger sa population immigrée. C'est un reportage d'Angelina Bagdasarian, récit de Yacouba Ouedraogo.
Claudia Ventura vit à Los Angeles depuis 20 ans. Elle a un emploi et une famille, mais n'a pas de papiers en règle. Claudia Ventura fait partie des quelques 800 000 habitants de Los Angeles qui n'ont pas de statut légal aux États-Unis. Et comme beaucoup d'autres, elle se sent mal à l'aise après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle.
Maintenant, je ne vois plus beaucoup de gens dans la rue. Moins de gens, c'est mauvais. Je pense que les gens ont peur des expulsions.
Le 19 novembre, le conseil municipal de Los Angeles a approuvé une ordonnance qui la qualifie de ville sanctuaire. Cela implique que la police locale et les autorités de l'État ne partageront pas les informations sur le statut d'immigration des personnes avec les autorités fédérales chargées de l'immigration, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime grave. Des militants des droits de l'homme comme José Mario Cambrera de la Coalition for Human Immigrant Rights of Los Angeles soutiennent l'ordonnance.
Une telle ordonnance municipale envoie un message très fort à la communauté de Los Angeles et au reste du pays. À LA, les ressources disponibles seront utilisées pour assurer la sécurité de la communauté, pour que la communauté fasse confiance à ses propres dirigeants et pour que la communauté prospère, et non pour les arrêter ou pour semer le chaos dans leur communauté.
Pourtant, tout le monde dans la ville n'est pas d'accord avec cette décision. Les partisans de Trump, environ 38% des habitants, selon les résultats de l'élection, ne veulent pas que LA soit une ville sanctuaire.
Je pense que c'est une honte. Nous devons d'abord nous occuper des nôtres. Quand nous disons l'Amérique d'abord, cela ne veut pas dire que nous ne nous occupons pas des autres. Cela veut dire que nous nous occupons d'abord des nôtres.
L'ordonnance n'aura que peu d'effets pratiques car depuis 1979, LA interdit à la police et aux fonctionnaires de l'immigration d'interroger une personne sur son statut d'immigré. Le nouveau statut de LA ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir d'expulsion, mais simplement que les autorités locales n'aideront pas les agents fédéraux à trouver et à expulser les immigrés sans papier. Tatiana Edwards, Behar, avocate spécialisée en droit de l'immigration.
Je pense que les agents fédéraux commenceront par des raids massifs plutôt que de demander des documents à des passants au hasard dans la rue. Je pense qu'il y aura des descentes massives dans les usines et dans l'industrie agricole où, selon les données officielles, les immigrants sans papier sont les plus susceptibles de travailler.
Après son investiture le 20 janvier, Donald Trump a fortement suggéré qu'il pourrait déclarer une urgence nationale et utiliser le personnel militaire américain pour aider à mener des expulsions massives, une mesure que les défenseurs de l'immigration se sont engagés à combattre devant les tribunaux.
Ainsi s'achève notre journal. Des changements significatifs se produisent au quotidien dans le monde entier et il est crucial de rester informé pour comprendre l'impact de ces événements sur nos vies. Nous continuerons à vous offrir des reportages détaillés et des analyses pertinentes pour éclairer vos choix. Merci de votre fidélité. Ne quittez pas la VOA Afrique et restez avec nous pour la suite de nos programmes. Je suis Nanit Talani à la mise en onde, Firmin Max Kouyaouida à la technique, Kelvin Fowler. Au revoir et à très bientôt. lecture, chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour cette édition du journal. Au micro, Nanit Talani. Ce matin, l'actualité est marquée par la Namibie qui réécrit son histoire avec Netumbo Nandine Ndaitwa, élue première femme présidente. Joe Biden en Angola qualifie la traite des esclaves de péché originel et annonce une aide humanitaire pour l'Afrique. Invoquant la grâce du fils Biden, Trump réclame l'annulation du procès Stormy Daniels. L'ONU alerte sur l'aggravation des déplacements forcés. Dans les magazines, nous vous proposerons une analyse du changement de génération politique avec l'ascension de jeunes dirigeants au pouvoir au Sénégal.
Se voir propulser président de l'Assemblée nationale, c'est une lourde charge, c'est une lourde responsabilité. À eux de faire preuve de beaucoup d'humilité, de savoir que ce sont de lourdes responsabilités.
La Côte d'Ivoire obtient l'approbation de crédit budgétaire pour 2025. Ce sera dans la Minute Éco, juste avant le sport. Retrouvons ces sujets et bien plus dans ce journal. En visite officielle en Angola, le président américain Joe Biden a qualifié la traite des esclaves de péché originel qui a hanté les États-Unis. Lors d'un discours prononcé hier, il a aussi annoncé $1 milliard d'aide humanitaire à l'Afrique. Jacques Aristide.
S'exprimant au Musée national de l'esclavage de Luanda, le président Joe Biden a fait part de cette nouvelle aide de plus $1 milliard répartie sur 31 pays pour les Africains déplacés par des sécheresses historiques. Pour lui, l'histoire de l'Angola et des États-Unis est une leçon pour le monde. Deux nations avec une histoire commune dans le mal de l'esclavage humain, deux nations dans des camps opposés de la guerre froide à la fin du XXe siècle. Et maintenant, deux nations se serrant les coudes, travaillant ensemble chaque jour pour le bien mutuel de nos peuples, a-t-il ajouté. Washington compte verser $229 000 pour soutenir la restauration et la conservation de ce musée angolais de l'esclavage. Le président Biden, qui passe le relais à son successeur Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier, a longuement évoqué hier avec son homologue angolais João Lourenço le couloir de l'Obito, gigantesque projet de voie ferrée qui est décrit comme l'investissement massif et très ambitieux, emblématique de la présidence Biden en Afrique. Selon la Maison-Blanche, Joe Biden doit justement se rendre à l'Obito aujourd'hui pour y rencontrer les dirigeants des pays concernés par ce couloir, à savoir, outre l'Angola, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie.
La Namibie a élu sa première femme présidente, Netumbo Nandine Ndaitwa, 72 ans, l'actuelle vice-présidente issue du parti au pouvoir dès le premier tour, avec 57,31% des suffrages, a annoncé hier soir la commission électorale. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le parti de celle que les Namibiens surnomment NNN, la SWAPO, dirige le pays, qui compte 3 millions d'habitants depuis son indépendance en 1990. Le taux de participation s'élève à plus de 76% des inscrits, selon la commission électorale. Le premier opposant, Panduleni Itula, arrive loin derrière avec seulement 25,50% des voix dans cette élection qui a connu une forte participation, mais aussi de nombreux cafouillages obligeant à prolonger le scrutin de plusieurs jours. Les élections présidentielles et législatives du 27 novembre ont dû être prolongées à deux reprises en raison de problèmes logistiques et techniques, avec notamment une pénurie de bulletins de vote. Le leader du principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement, avait annoncé dès le week-end dernier qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats.
Différentes organisations guinéennes indiquent que le nombre de supporters de foot tués dimanche dans une embuscade ou une bousculade plutôt dans le sud-est du pays était probablement très supérieur aux 56 morts annoncés par le gouvernement. On estime aujourd'hui à 135 personnes, dont majoritairement des enfants de moins de 18 ans, le nombre de ceux qui ont trouvé la mort au stade du 3 avril de Nzérékouré, a dit un collectif d'organisations de défense des droits humains dans une déclaration lue publiquement à Nzérékouré. Le collectif dit se fonder sur des informations recueillies à l'hôpital auprès de témoins de parents de victimes dans les mosquées et les églises auprès des chefs de quartier où ont lieu des inhumations et dans la presse. Le ministre algérien des affaires religieuses, Youssef Belmehdi, assure que la liberté de culte est garantie en Algérie, bien que l'islam soit la religion d'État. Il a souligné que cette liberté est encadrée par la loi et protégée par la Constitution, qui garantit également la sécurité des lieux de culte et protège contre les agressions. Cependant, les États-Unis ont placé l'Algérie sur une liste de pays surveillés en raison de violations de la liberté religieuse, citant la criminalisation du blasphème et la fermeture d'églises évangéliques. Malgré ces accusations, Alger affirme respecter la liberté religieuse dans le cadre de la loi et des pratiques interreligieuses.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Nations Unies avertissent que les niveaux déjà sans précédent de déplacements forcés risquent de s'aggraver en 2025, alors que les conflits et les catastrophes poussent toujours plus de personnes à fuir leur foyer. Les précisions avec Dili Diko.
Nous vivons dans un monde ravagé par des conflits violents dont on ne voit pas le bout, qui brisent des vies et poussent les gens à fuir en quête de sécurité, a déploré le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Le HCR cherche à obtenir 10,25 milliards de dollars l'année prochaine pour faire face aux crises qui s'intensifient. Une conférence des donateurs à Genève a permis de récolter mardi 1,14 milliard de dollars de promesses gouvernementales, les engagements du secteur privé portant le total des promesses à 1,5 milliard de dollars. Selon le HCR, les déplacements forcés atteignent des niveaux sans précédent, avec environ 123 millions de personnes déplacées dans le monde. L'agence estime que plus de 139 millions de personnes déplacées de force pourraient avoir besoin de la protection et de l'assistance du HCR l'année prochaine, en raison de l'aggravation des conflits, l'intensification des catastrophes naturelles et des crises en cours. Les États-Unis sont en tête des contributeurs avec un engagement à 200 millions de dollars, suivi du Danemark et de la Suède. Le premier bénéficiaire de l'aide du HCR en 2025 sera l'Ukraine avec 550 millions de dollars, suivi du Liban, de l'Éthiopie, du Soudan, du Tchad, de la Syrie, de la Jordanie, l'Ouganda, le Yémen et le Soudan du Sud.
Hier, en Corée du Sud, le président Yoon Suk Yeol a créé la surprise en proclamant la loi martiale, ce qui a suscité manifestations et inquiétudes de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et la Russie. Tard dans la nuit, le président a finalement annoncé que la loi martiale allait être levée davantage avec Claire Morin-Gibourg.
C'est lors d'une nouvelle adresse à la télévision que le président coréen a annoncé la levée de la loi martiale. Il y a eu une demande de l'Assemblée nationale pour lever l'état d'urgence et nous avons procédé au retrait des militaires qui avaient été déployés, a-t-il déclaré. Instaurée pour la première fois dans le pays en plus de 40 ans, la loi martiale a suscité la stupeur. Un décret en 6 points avait rapidement suivi, interdisant les activités et les partis politiques, les grèves et les rassemblements, et plaçant tous les médias sous la surveillance du gouvernement. Bien qu'inattendu, cette annonce s'inscrit dans le contexte d'une bataille avec le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, sur le projet de budget de l'année prochaine. Les députés de l'opposition ont approuvé la semaine dernière un programme budgétaire considérablement réduit. Le président sud-coréen a accusé les élus de l'opposition de couper tous les budgets essentiels aux fonctions premières de la nation.
Le principal parti d'opposition en Corée du Sud dit ce mercredi qu'il engagera une procédure en destitution contre le président Yoon Suk Yeol s'il ne démissionne pas immédiatement après donc son éphémère loi martiale proclamée puis levée dans la nuit. Invoquant la grâce présidentielle qu'a accordée Joe Biden à son fils Hunter, Donald Trump a réclamé officiellement à la justice new-yorkaise, via ses avocats, l'annulation de sa condamnation pénale historique dans l'affaire Stormy Daniels, selon un document judiciaire mardi. Le 45e et bientôt le 47e président des États-Unis a été jugé en mai pénalement coupable de paiement dissimulé avant la présidentielle de 2016 à une actrice de film X pour qu'elle taise un rapport sexuel 10 ans plus tôt. C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, voici la Minute Éco présentée par Firmin Max Kouyaouida.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement obtient l'approbation des députés pour des crédits budgétaires de 527,648 milliards de francs CFA. Il a précisé que les principaux chantiers pour l'exercice 2025 s'inscrivent dans la logique du plan national de développement, notamment en matière de modernisation des outils de gestion du trésor, de sécurisation du système d'information comptable et de renforcement de la mobilisation de l'épargne privée. L'ONU alerte sur l'aggravation des déplacements forcés en 2025, alors que les conflits et les catastrophes poussent toujours plus de personnes à fuir leur foyer. Selon le HCR, les déplacements forcés atteignent des niveaux sans précédent, avec environ 123 millions de personnes déplacées dans le monde. En Afrique, l'Éthiopie, le Soudan, le Tchad, l'Ouganda et le Soudan du Sud sont bénéficiaires de l'aide réclamée par le HCR pour 2025. Pour finir, les pays en développement ont payé un montant record de 1400 milliards de dollars pour le service de leur dette extérieure en 2023 en raison des taux d'intérêt très élevés, selon un rapport de la Banque mondiale publié mardi. Parmi ces pays, les plus pauvres et vulnérables ont déboursé un montant record de 96,2 milliards de dollars pour le service de leur dette, dont près de 35 milliards pour les seuls coûts d'intérêt, un record également.
Restez avec nous pour un tour d'horizon sportif avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
On connaît tous les qualifiés pour les quarts de finale de la CAN féminine de handball qui se déroule à Kinshasa en RDC.
Oui, dans la poule A, le Congo, l'Égypte, le Sénégal et l'Algérie poursuivent leur aventure à Kinshasa dans cette CAN féminine de handball. Le Cap-Vert et le Kenya sont éliminés car seuls les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. Dans la poule B, c'est l'Angola, le Cameroun, la RDC et la Tunisie qui ont arraché leur ticket pour le tour suivant. Ça ne passe pas pour la Guinée et l'Ouganda qui était aux prises hier dans cette poule B pour le compte des matchs de la dernière journée de la phase de poule. Malgré la victoire des Guinéennes face aux Ougandaises 48 à 22, la Guinée finit 5e et l'Ouganda 6e du groupe B.
C'est la semaine prochaine, Yacouba, que la FIFA va officiellement confirmer l'accueil du Mondial 2030 par le Maroc, le Portugal et l'Espagne.
Les notes d'évaluation des infrastructures de ces trois pays sont bonnes, selon notre correspondant à Casablanca, Amin Birouk.
Le 11 décembre, nous aurons la confirmation définitive que le Maroc, le Portugal, l'Espagne organiseront la Coupe du Monde 2030, que l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay organiseront les festivités du centenaire de la Coupe du Monde. C'est un formalisme auquel s'est attachée la FIFA avec des process, et parmi les process, la visite des fameux inspecteurs pour découvrir et faire découvrir les infrastructures et pas seulement les stades des trois pays. Les trois pays ont, je dirais, mis en lice 17 stades, des installations, des terrains d'entraînement, des fan zones, sans oublier, bien évidemment, les infrastructures aéroportuaires, hôtelières, les transports publics. Tout cela a été scruté de manière minutieuse et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un satisfecit général puisque la note d'ensemble est de 4,2 sur 5. C'est la note la plus élevée des visites d'inspection, ex aequo avec le dossier de candidature de l'Afrique de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2034. Mieux encore, les stades marocains ont reçu une note assez satisfaisante. Le grand stade Hassan II qui est en chantier et l'égal du Santiago Bernabéu du Nou Camp, ils sont tous trois désignés pour abriter ou le match d'ouverture ou la finale. Et les cinq autres stades reçoivent une note entre 4,1 et 4. Devançons des stades aussi prestigieux que le José Alvalade de l'Espagne, la Rosaleda de Malaga, le stade de San Sébastien, de la Corogne ou de Saragosse, ce qui en dit long sur le travail de sérieux, je dirais, des autorités marocaines qui ont également offert toutes les garanties nécessaires sur le plan juridique pour que cette Coupe du Monde soit une réussite. Petite zone d'ombre peut-être, les transports en commun qu'il faudrait améliorer, l'hôtellerie grand public et non pas l'hôtellerie de luxe, mais nous avons 5 années pour pouvoir réussir cette prouesse. Le verdict c'est le 11 décembre et ce sera l'occasion de célébrer en Afrique la deuxième Coupe du Monde en terre africaine après celle qu'avait obtenue l'Afrique du Sud en 2010.
Merci Amine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Voici notre section magazine. Au Sénégal, Eladj Malick Ndiaye, 42 ans, a récemment été élu président de l'Assemblée nationale à la suite des élections législatives du 17 novembre. Cet événement marque un tournant dans la politique sénégalaise, caractérisé par l'arrivée de jeunes dirigeants à la tête de l'État, aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, et du premier ministre Ousmane Sonko, 50 ans. Eladj Malick Ndiaye incarne une nouvelle génération de responsables politiques. Pour analyser cette évolution, Yacouba Ouédraogo a joint à Dakar, au Sénégal, le professeur Jean-Louis Correa, analyste politique. Il partage ses réflexions sur ce renouveau politique et les défis auxquels ces jeunes dirigeants devront faire face dans la gestion du pays.
Eladj Malick Ndiaye est un cadre de PASTEF. Il n'est pas membre fondateur de PASTEF, mais il fait partie des personnes les plus en vue de ce parti qui a eu à participer aux luttes de ces dernières années de 2022, 2023, etc. Ce qui lui a donné une certaine légitimité et qui est également, d'après ce qu'on dit à l'origine du slogan Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye, ça veut dire que Sonko et Diomaye et Diomaye et Sonko, c'est la même personne.
Désormais, on a un président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, le premier ministre Ousmane Sonko, 50 ans, et maintenant Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, 42 ans. Est-ce qu'on peut parler du renouvellement de la classe politique à la tête de l'État sénégalais?
Oui, effectivement, sans se tromper, on peut analyser ce qui se passe comme étant un renouvellement, un changement de génération, et j'irai même un peu plus loin, comme un changement de système. Toute la génération post-indépendance qui avait commencé à tirer un peu sa révérence à partir de l'élection du président Macky Sall, cette génération-là, vraiment, elle va un peu, et même beaucoup à la retraite. Le président Macky Sall, certes, n'est pas encore très très vieux. Il peut, selon la constitution du Sénégal, redevenir candidat. Mais en tout cas, une grande génération qui avait fait la politique sénégalaise après les indépendances, cette génération-là a été mise à la retraite. Et donc là, on est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle génération qui s'accompagne également d'un nouveau système politique, d'une nouvelle conception de la politique au Sénégal, effectivement.
Depuis l'arrivée au pouvoir, justement, du PASTEF, on a entendu des opposants parler d'amateurisme. Est-ce que cette jeunesse des dirigeants sénégalais ne va pas manquer d'expérience dans la gestion, justement, de l'État?
Oui, effectivement, ils peuvent manquer d'expérience à ce niveau-là. Il n'y a pas d'école qui forme un président de la République, qui forme un premier ministre, évidemment. Ils vont manquer d'expérience. Eladj Malick Ndiaye n'a jamais été député, donc se voir propulser président de l'Assemblée nationale, c'est une lourde charge, c'est une lourde responsabilité. À eux de faire preuve de beaucoup d'humilité, de savoir que ce sont de lourdes responsabilités, de mesurer l'importance de la charge et de ne pas être toujours sur un mode guerrier, un mode va-t-en guerre. Il va falloir prendre le temps d'apprendre certaines choses, d'assimiler d'autres choses, et le tout dans un espace-temps assez réduit, c'est-à-dire, je dirais même plus 5 ans, je dirais 4 ans, parce qu'il y a déjà un an qui est parti. Donc ça ne va pas être facile. Mais je pense qu'avec la confiance renouvelée par les Sénégalais lors de ces élections législatives, il y aura une certaine accalmie ces derniers temps. On pourra pendant quelques temps encore parler d'état de grâce et leur passer quelques petites erreurs.
C'était le professeur Jean-Louis Correa, analyste politique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Ce mardi 3 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la troupe Fiontan, un groupe de gymnastes et de danseurs composé uniquement de personnes sourdes et muettes, a captivé son public à Abidjan en Côte d'Ivoire. À travers leurs performances, ces artistes ont mis en lumière la lutte pour l'inclusion et l'égalité des personnes handicapées. Notre correspondant Ange Nemegno est allé à la rencontre de la compagnie Fiontan, qui a aussi récemment fait parler d'elle au Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Suivons son reportage.
Devant une salle bondée de monde, les artistes de la troupe Fiontan exécutent des danses pour conter une histoire. Leur rythme cadencé et bien millimétré donne l'impression d'assister à un spectacle comme les autres. Pourtant, il s'agit bel et bien de personnes sourdes et muettes qui communiquent avec le public par le biais de danse et de mouvements de gymnastique. Sanou Yaya, fondateur de la compagnie Siantan.
La compagnie s'est venue sans handicap parce que nous avons décidé à travers ce projet de venir nous parler qui se trouve entre les personnes invalides et les personnes en situation de handicap pour dire que nous aussi nous avons le droit en tous les ordres. À travers ce spectacle, le départ de la place qui les a été ôtée dans la société pour avoir aussi une place.
Les danseurs de la compagnie Siantan produisent des spectacles de renommée internationale. Ils ont tout récemment remporté la médaille d'or au 9e jeu olympique dans la catégorie danse et création. Le thème de leur spectacle « Adepte de mon être » explore les maux de la société contemporaine à travers des scènes de manifestation et de lutte pacifique, avec un accent particulier sur la revendication des personnes handicapées. Adama Tunkara, membre de la compagnie Siantan.
Avant, les sourds ne pouvaient pas se présenter devant les autorités dans sa communauté, mais vu qu'à travers la danse, ils peuvent aller au-delà de ça, présenter ses spectacles à n'importe qui.
Lydie Traoré, membre de la compagnie Siantan.
Elle demande plus d'égalité pour les sourds dans ce spectacle.
Le spectacle a été bien accueilli par une centaine de personnes qui ont fait le déplacement. Parmi eux, des élèves de l'école ivoirienne des sourds-muets. Ils ont apprécié à sa juste valeur la prestation qui leur a été donnée. Ibrahima Ouattara, enseignant à l'école ivoirienne des sourds.
Aujourd'hui, nous avons vu un public épanoui. Juste une manière de dire que nous sommes tous pareils dans la société. Avant, ces enfants étaient marginalisés. Mais aujourd'hui, assister à un spectacle de sourds qui fait plaisir à toute une salle, vraiment, ça fait vraiment honneur.
Ce mardi 3 décembre 2024, Le Monde célèbre la Journée internationale des personnes handicapées, un événement célébré chaque année depuis 1992, conformément à la résolution 47.3 de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée vise à sensibiliser le public à l'inclusion des personnes handicapées et à promouvoir l'égalité des chances. Ange Noméon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Lors d'une rencontre avec son homologue angolais João Lourenço ce mardi, dans le cadre de sa seule visite en Afrique subsaharienne en tant que président des États-Unis, Joe Biden a promis un engagement durable de Washington avec l'Afrique. Selon la Maison-Blanche, M. Biden va aussi y rencontrer les dirigeants de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint à Johannesburg Joanne William Schmonzi, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Le président s'est rendu en Angola, premièrement pour souligner la solidité durable des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Angola, et en plus l'engagement des États-Unis envers tous nos partenaires africains, la manière pour travailler ensemble pour résoudre les défis communs. Le site est important parce que les États-Unis ont annoncé l'année dernière leur soutien au corridor de Lobito, un projet d'infrastructure qui promet de lier l'économie de l'Angola, de la RDC, de la Zambie et plusieurs autres pays africains, en particulier de l'Afrique australe. Et c'est pour ça que la Maison-Blanche a décidé de choisir l'Angola pour la visite du président.
Qu'est-ce que les États-Unis espèrent tirer de ce partenariat?
Cette visite a lieu dans l'esprit qu'a annoncé l'administration sur l'expression « ce qui compte ». Ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, c'est ce que nous pouvons faire avec l'Afrique. Les États-Unis entreprennent ce projet pour augmenter le commerce bilatéral entre les États-Unis et l'Afrique pour le bénéfice des deux côtés.
Et pourquoi le président Biden a choisi de se rendre au Musée national de l'esclavage que symbolise sa présence?
L'héritage de l'esclavage et toute cette histoire épouvantable nous est très important. Et on est conscient du fait que pour la diaspora africaine en Amérique et aussi pour les peuples africains. C'est une mémoire qui fait mal et il faut s'adresser à ce qui s'est passé dans le passé et faire face à l'histoire. Et c'est un genre de transparence. C'est un héritage et une question qui nous sont importants. Et voilà, c'est un élément de l'histoire qui ne peut pas être effacé.
Joanne William Schmossis, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Los Angeles a approuvé une ordonnance qui la qualifie de ville sanctuaire. Il s'agit d'une réponse à la promesse du président élu Donald Trump de procéder à des déportations massives lorsqu'il prendra ses fonctions en janvier. L'ordonnance n'empêchera pas les fonctionnaires fédéraux d'expulser les immigrés sans papier, mais elle renforce le vœu de la ville de protéger sa population immigrée. C'est un reportage d'Angelina Bagdasarian, récit de Yacouba Ouedraogo.
Claudia Ventura vit à Los Angeles depuis 20 ans. Elle a un emploi et une famille, mais n'a pas de papier en règle. Claudia Ventura fait partie des quelques 800 000 habitants de Los Angeles qui n'ont pas de statut légal aux États-Unis. Et comme beaucoup d'autres, elle se sent mal à l'aise après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle.
Maintenant, je ne vois plus beaucoup de gens dans la rue. Moins de gens, c'est mauvais. Je pense que les gens ont peur des expulsions.
Le 19 novembre, le conseil municipal de Los Angeles a approuvé une ordonnance qui la qualifie de ville sanctuaire. Cela implique que la police locale et les autorités de l'État ne partageront pas les informations sur le statut d'immigration des personnes avec les autorités fédérales chargées de l'immigration, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime grave. Des militants des droits de l'homme comme José Mario Cambrera de la Coalition for Human Immigrant Rights of Los Angeles soutiennent l'ordonnance.
Une telle ordonnance municipale envoie un message très fort à la communauté de Los Angeles et au reste du pays. À LA, les ressources disponibles seront utilisées pour assurer la sécurité de la communauté, pour que la communauté fasse confiance à ses propres dirigeants et pour que la communauté prospère, et non pour les arrêter ou pour semer le chaos dans leur communauté.
Pourtant, tout le monde dans la ville n'est pas d'accord avec cette décision. Les partisans de Trump, environ 38% des habitants, selon les résultats de l'élection, ne veulent pas que LA soit une ville sanctuaire.
Je pense que c'est une honte. Nous devons d'abord nous occuper des nôtres. Quand nous disons l'Amérique d'abord, cela ne veut pas dire que nous ne nous occupons pas des autres. Cela veut dire que nous nous occupons d'abord des nôtres.
L'ordonnance n'aura que peu d'effets pratiques car depuis 1979, elle est interdite à la police et aux fonctionnaires de l'immigration d'interroger une personne sur son statut d'immigré. Le nouveau statut de LA ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir d'expulsion, mais simplement que les autorités locales n'aideront pas les agents fédéraux à trouver et à expulser les immigrés sans papier. Tatiana Edwards, Behar, avocate spécialisée en droit de l'immigration.
Je pense que les agents fédéraux commenceront par des raids massifs plutôt que de demander des documents à des passants au hasard dans la rue. Je pense qu'il y aura des descentes massives dans les usines et dans l'industrie agricole où, selon les données officielles, les immigrants sans papier sont les plus susceptibles de travailler.
Après son investiture le 20 janvier, Donald Trump a fortement suggéré qu'il pourrait déclarer une urgence nationale et utiliser le personnel militaire américain pour aider à mener des expulsions massives, une mesure que les défenseurs de l'immigration se sont engagés à combattre devant les tribunaux.
Ainsi s'achève notre journal. Des changements significatifs se produisent au quotidien dans le monde entier et il est crucial de rester informé pour comprendre l'impact de ces événements sur nos vies. Nous continuerons à vous offrir des reportages détaillés et des analyses pertinentes pour éclairer vos choix. Merci de votre fidélité. Ne quittez pas la VOA Afrique et restez avec nous pour la suite de nos programmes. Je suis Nanit Talani à la mise en onde, Firmin Max Kouyaouida à la technique, Kelvin Fowler. Au revoir et à très bientôt.